mercredi à 17h30 sur Radio Campus et pendant une demi-heure, vous avez rendez-vous avec l'actualité de l'Université de Lille 1, Sciences et Technologies. Lille 1 Info accueille aujourd'hui M. Salam Maouche, vice-président chargé des formations à l'université. Bonjour M. Salam Maouche.
Bonjour.
Alors j'allais dire, comment ça va depuis la rentrée ?
Ben, ça va très bien. Nous avons commencé par faire d'abord la deuxième session qui n'a pas pu avoir lieu en juin. Et la rentrée se passe très bien, d'autant plus que nous recevons plus d'étudiants que l'année dernière.
Alors là, vous faites allusion aux grèves qui ont eu lieu, aux perturbations. Et j'allais dire que l'université a permis à tout le monde de se retrouver dans les temps pour aborder cette nouvelle année universitaire.
Tout à fait. Nous avons donc, normalement, on termine un peu plus tôt l'année, je parle de l'année donc 2008-2009, pour permettre aux étudiants de faire donc des révisions et de faire leur dernière session au plus tard, au 30 juin. Étant donné les mouvements de l'année dernière, nous avons dû reporter la deuxième session en septembre pour permettre au cours de se dérouler presque normalement.
D'accord. Donc ça y est, maintenant on est en décembre, hein.
Tout à fait, l'année est bien entamée, c'est bientôt même la fin du premier semestre.
Oui, alors c'est vrai qu'on n'ose plus parler de vacances maintenant, c'est vrai, sur l'université, il n'y a plus de vacances pendant l'hiver ?
Je sais, il y aura des vacances pour tout le monde, je pense qu'à partir de vendredi prochain, les étudiants seront en vacances, ils vont rentrer le 4 janvier, comme le personnel aussi.
Mais j'entends des gens qui ne parlent plus de vacances, mais de... je ne sais pas, pause, enfin un nom un petit peu...
Il y a des noms qu'on utilise un peu, c'est plutôt pour les vacances d'hiver, qui sont donc des arrêts pédagogiques.
Voilà, tout à fait.
Parce que pour gagner effectivement du temps, la deuxième session du premier semestre, donc du semestre impair, aura lieu à juste une semaine, disons, d'arrêt pédagogique, qui sert aussi de révision, et après il y aura la deuxième session, effectivement. C'est pour ça qu'on parle d'arrêt pédagogique.
D'accord, d'arrêt pédagogique. J'avais bien noté qu'il y avait une nuance avec les vacances communes.
Hein. Tout à fait.
Alors, c'est vrai que ces arrêts pédagogiques ont aussi leur fonction, notamment pour ceux qui doivent compléter le cours en travaillant dur le soir, la nuit. Et ces ruptures présentent aussi un temps où ils peuvent finaliser un petit peu ce qu'ils ont dans l'esprit.
Ces arrêts pédagogiques, il y en a qui sont prévus un peu pour tout le monde parce que les sessions actuellement fonctionnent en première session puis après une session de rattrapage qu'on appelle la deuxième session. Et c'est aussi dans la loi, on doit laisser un temps donc après la première pour permettre à l'étudiant de réviser. Mm-hmm. Là, le temps, effectivement, on le laisse puisque la première session aura lieu en janvier. Mais la deuxième session aura lieu en février. Il y a assez de temps, mais seulement l'étudiant est déjà inscrit dans le second semestre. Mm-hmm. Donc la première semaine des vacances va servir à la révision, comme ça il pourra effectivement, là il n'a pas de cours du tout, il pourra venir faire dans la deuxième semaine des vacances ses examens de seconde session. C'est de l'intérêt effectivement de l'étudiant, à chaque fois que l'on peut effectivement le faire, même à l'issue de la première session, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas continuer le cours jusqu'à la veille effectivement dans la première session. C'est de laisser un peu de temps aux étudiants pour qu'ils puissent réviser.
Alors, ces examens, ils ont toujours été traditionnellement à la même période de l'histoire, enfin je veux dire depuis 20-30 ans, c'est toujours à peu près la même chose
Disons, il y a deux périodes. Il y a ce qui est avant le LMD, qui sont effectivement des examens à l'année. Donc du coup, on a un peu plus de temps, on a moins d'examens. Mm-hmm. Lorsqu'on est passé à la semestrialisation, il faut multiplier à peu près par deux le nombre d'examens dans l'année, puisqu'il y aura une première session et une seconde session pour le premier semestre, et une première session et une seconde session pour le second semestre. Donc, moi, je suis vice-président depuis 2007. Deux années de suite, j'ai subi effectivement des mouvements donc, d'étudiants. Pour l'instant, je n'ai pas pu maintenir le calendrier qui est voté. J'espère que cette année, ça va effectivement se maintenir. Il y a toujours des changements. Donc, du coup, on réagit. Pour l'instant, on réagit bien avec l'aide effectivement donc des étudiants qui jouent effectivement donc le jeu. L'idéal, c'est de faire un semestre et de le terminer entièrement avant d'entamer le second.
Mmh. Donc, si je comprends bien, cette période après examen, c'est du stress à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les gens qui organisent.
Ah, tout à fait, puisqu'on a plus de 4000 unités, ça veut dire chaque année. on organise quelque chose peut-être comme 6 000 à 8 000, parce que les examens, il y a aussi ce qu'on appelle le contrôle continu. Ça veut dire que dans certaines formations, on incite, surtout sur les premières années de licence, à faire du contrôle continu. Donc il n'y a pas de première session, il y a une session de rattrapage pour tous. Si quelqu'un à l'issue du contrôle continu n'a pas eu son unité ou son semestre, il peut avoir effectivement une session de rattrapage. Mais ce n'est pas la totalité des étudiants. Mmh. Donc du coup, c'est le stress, parce qu'il y a d'abord les salles, il y a à gérer quand même pas mal d'étudiants dans des grandes salles, et puis il arrive toujours des petits problèmes, des copies, des choses comme ça. Mmh.
Mmh. Bon, c'est pas nouveau ça hein, quand même.
Non, mais pour l'instant, je dirais qu'au niveau des examens, ça se passe plutôt bien, mais gérer dans des grandes salles, il faut avoir plus de surveillants pour éviter que quelqu'un regarde à droite ou à gauche. Mmh, mmh. Mais il faut aussi des problèmes de sécurité, s'assurer que les portes sont bien ouvertes. Le A4 et le A5 qui peuvent accueillir entre 300 et 400 étudiants, c'est une foule. S'il arrivait quelque chose dans la salle, ça serait désastreux.
Alors, quand on parle de réduction de fonctionnaires, etc., est-ce que ça a une incidence sur la possibilité de contrôler sérieusement les examens ?
Je veux juste dire, c'est que les examens, les collègues viennent, ceux qui posent effectivement les sujets, ils viennent au moins la première heure pour effectivement regarder s'il n'y a pas de problème, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais la surveillance est assurée par des vacataires. Mm-hmm. En majorité, ce sont souvent des retraités, que nous payons à l'heure. Mm-hmm. Et c'est l'université qui, grosso modo, paye chaque année. L'année dernière, je pense qu'on est autour de 330 000 euros. Dans à peu près 200 000 uniquement pour les examens. D'accord. Pour surveiller effectivement les examens. Il faut quand même reconnaître qu'en fin d'année, c'est la halle Valin qui sert pour la seconde session. Ce n'est pas uniquement la grande salle A3 à A4, c'est toute la halle Valin qui est réservée à partir du 15 mai pour recevoir que des examens, parce que chaque jour, la salle est effectivement pleine.
Ah, c'est énorme cette salle, hein?
Il y a 18 000 inscrits. On suppose que lorsqu'on regarde, il y a des inscrits dans d'autres établissements qui ont un diplôme de Lille 1. Je parle des délocalisations qui sont aussi dans des pays étrangers comme en Afrique. Il y a à peu près une douzaine de mille qui sont présents effectivement tout le temps sur le campus. Il faut les faire passer en examen, sauf les dernières années qui sont les masters 2, la deuxième année de master, qui eux n'ont pas forcément de deuxième session puisqu'ils sont en majorité en stage. Donc grosso modo, il faut passer 10 000 étudiants à la louche. Il faut des moyens, il faut donc des personnes, il faut effectivement des locaux et il faut assurer, il y a une certaine organisation, il y a un service entier qui est dédié aux examens. Le problème, c'est qu'avec le LMD, si vous permettez, c'est que un étudiant peut être à cheval sur un semestre 2, c'est la loi. Il peut même être par moment plus. Ça veut dire que lorsqu'on fixe un examen pour une unité, il faudrait que nous soyons sûrs que l'étudiant n'a pas l'examen dans une autre unité en même temps. Donc on a un logiciel qu'on fait tourner pendant quelques jours, et puis il y a quelqu'un qui regarde manuellement s'il n'y a pas des petits problèmes au niveau des étudiants.
D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer dans une même salle que des étudiants passent des examens différents au même jour ?
C'est le cas, parce que la halle Valin, ce n'est pas pour uniquement le même semestre. Il y a de tout, ça veut dire à la fois des domaines et que des années. Ça veut dire que c'est par rangée, une, deux, trois rangées, une rangée et demie. Puis après, effectivement, c'est tous les examens, on mélange la totalité donc des examens, des formations de Lille 1.
Ça doit être impressionnant à voir.
Quand on rentre dans une salle comme ça, oui. D'autant plus que vous avez tous les étudiants qui planchent, et en face ou derrière, il y a toujours une personne devant qui regarde et une personne derrière qui regarde.
Voilà la vie des étudiants sur Lille 1, qui est rythmée, on va dire, par ces examens. Pour eux, ce sont des moments importants, à la fois en termes de restitution, mais aussi de responsabilisation.
Tout à fait. Vous savez aussi que les étudiants ne sont pas obligés de suivre des cours, ne sont pas obligés de suivre des TD, c'est par la loi. Ils sont obligés de faire des travaux pratiques, mais pour pouvoir réussir, il faut passer effectivement dans ces examens. Pour eux, les étudiants qui travaillent, par moment, effectivement, ne viennent pas à leurs cours, ils révisent en dehors, et ils viennent passer les examens. C'est quelque chose qui rythme, je dirais, les semestres. Mais il faut dire que nous ne faisons pas que des examens terminaux, première et seconde session. Pendant tout au long de l'année, il y a des examens, des travaux pratiques, mais il y a aussi beaucoup de contrôle continu. Même si le contrôle continu n'est pas... c'est pas uniquement ça qui contribue effectivement à la réussite de l'étudiant, mais c'est ce qui permet aussi... C'est une manière un peu de réactiver son objectif. Ça veut dire que si l'étudiant il rentre au 15 septembre et qu'on lui dit qu'il y a un examen le 15 janvier, je ne pense pas qu'il ait le temps vraiment de travailler comme il faut. Tandis que si on, pendant son parcours, on met quelques examens ou quelques interros, donc c'est ce qui se passe dans beaucoup de formations.
Mmh. On peut dire que globalement, depuis 10 ou 20 ans, le suivi est beaucoup plus important qu'avant.
Tout à fait. On a aussi une population qui a changé. En 20 ans, les étudiants, je dirais les jeunes, effectivement, donc, ont changé. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent dans l'université parce que l'université ne sélectionne pas. Il suffit d'avoir son bac pour pouvoir effectivement y rentrer. Donc nous avons une population, surtout en première année, qui est là en attente de quelque chose. Les statistiques, les études l'ont montré, effectivement, on tourne à peu près autour de 30%, pas loin de 30% de la population qui rentre, qui attend une autre formation. Donc on essaye effectivement de les accompagner, pas uniquement ceux qui ne veulent pas rester, mais surtout ceux qui veulent effectivement rester, parce qu'il y en a, suite au bac, n'arrivent pas, disons, n'ont pas les moyens de suivre ce qu'ils choisissent. Mmh. C'est souvent. D'autres, c'est parce que, après avoir fourni un grand effort probablement au bac, ne fournissent pas le même effort quand ils arrivent effectivement à l'université. Il y a peut-être un peu plus de liberté qu'à la classe de terminale. Il est vrai que le plan réussite en licence, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, mais l'île 1 a commencé à accompagner ses étudiants depuis donc de longues dates, et qu'on a toute une équipe qui ne fait que ça. Des tuteurs, des personnels, des directeurs d'études, des secrétaires pédagogiques qui effectivement accompagnent les étudiants, aussi bien de manière pédagogique, mais aussi sur les méthodologies, sur les orientations. Actuellement, on vient de lancer la période de réorientation. Ça veut dire quelqu'un qui n'est c'est pas bien senti au premier semestre, qui n'a pas, on sait qu'il ne va pas réussir et qui demande à aller dans une autre formation. On essaye de l'accompagner pour effectivement l'orienter. Lorsque quelqu'un n'est pas tout à fait très bon en théorie, mais qu'il veut aussi aller travailler rapidement, nous avons des DUST qui permettent, qui commencent, eux, en février, pas avant. Mm-hmm. Ça veut dire qu'un étudiant ne peut pas rentrer au 1er septembre et ça dure après 18 mois. Et il peut aller travailler. Comme ces formations sont construites avec des entreprises, les étudiants, enfin les diplômés, n'ont pas de difficulté de trouver de travail.
Mm-hmm. Donc effectivement, cette notion de réorientation, c'est quelque chose de relativement récent, on va dire. Avant, on se rendait compte parfois en fin d'année qu'on ratait une année.
La réorientation, mon sens, se trouvait effectivement, se faisait à l'issue de l'année avant, puisque c'était... Maintenant, on est fonctionnement en semestre. Toute logique, pour aller plus loin, on devrait faire un peu ce qu'on pourrait appeler du cinéma permanent. Ça veut dire les TD, les TP du semestre 1 devraient se répéter au semestre 2 et ainsi de suite. On change de période, si vous voulez. D'accord. Donc du coup, ce changement de période, en réalité, on considère toujours qu'on travaille en année, mais l'année est divisée en deux. On a un semestre, ça veut dire un étudiant peut rater un semestre, mais pas une année. Mmh. Donc du coup, à l'issue du premier semestre, ce qu'on appelle le semestre impair, donc chez nous, il y a une réorientation, ça ne concerne pas énormément d'étudiants, mais ça concerne une petite population. Il faut dire qu'il y a des étudiants aussi qui partent par moments à l'extérieur, mais on a aussi des étudiants qui viennent de l'extérieur, pour ne pas les citer, de certains BTS. C'est une petite population, mais ils viennent rentrer directement, effectivement, dans le semestre 2.
Alors, dans cette réorientation, il vous arrive parfois de réorienter vers d'autres établissements à l'extérieur de la région, par exemple, aussi?
Ça dépend de l'étudiant, ça dépend aussi de l'établissement, c'est effectivement si elle accepte de recevoir l'étudiant, est-ce que le projet professionnel, disons, de l'étudiant, quand l'étudiant en a un, est-ce que la formation, est-ce qu'il peut suivre la formation ou pas? Nous, c'est d'éviter un autre échec d'orientation, c'est-à-dire c'est d'accompagner l'étudiant pour qu'on soit sûr que dans sa nouvelle formation, il puisse réussir.
Alors, c'est vrai que pour cette réussite et pour ces réorientations, il y a quand même des facilités qui n'existaient pas avant. Avant, il y avait un nombre relativement limité de formations. Maintenant, il y a vraiment une panoplie énorme de choix, de possibilités. Ça aide ?
Tout à fait. On est plus dans le domaine plutôt de la spécialisation. Mais il est vrai que, quand on rentre en première année, il y a ce que nous appelons donc des profils. Et les profils permettent de voir des grands groupes d'étudiants. Voilà. Ce n'est qu'à l'issue du troisième semestre donc, que les étudiants choisissent leur mention de licence. Encore que là, ça reste effectivement, je dirais, sur des grands groupes, parce que dans chaque licence, il y a aussi des parcours. Mais les profils sont aussi construits en fonction des publics. C'est-à-dire que, pour parler par exemple des mathématiques, ce qu'on fait dans un profil qui est destiné à faire des mathématiques plutôt de la théorie n'est pas la même chose que celui qui va plutôt faire un peu plus de technologie. Il y a ces constructions. À la fin de chaque d'une licence, on verra, les compétences sont à peu près identiques dans les domaines qui sont effectivement recherchés. Là, on a le plus, peut-être, c'est au niveau des spécialités de master. Ça veut dire c'est à bac plus 5, si je peux me permettre. On a, quand on a sa licence, on peut rentrer dans une première année de licence, qu'on appelle actuellement le M1, puis après la spécialisation. On doit être à 111 spécialités sur l'île 1 pour les 28 mentions de licence. Et ces spécialités, c'est plutôt la demande donc, de l'entreprise. Ça veut dire que nos formations dites professionnalisantes sont suivies. Il y a des études sur l'emploi des étudiants, des diplômés plus exactement, et à partir donc de quelle durée ils ont trouvé un travail et quel type de travail. Est-ce que c'est un cadre, c'est pas un cadre, c'est un CDI, c'est un CDD. Et lorsqu'une formation plutôt ne donne pas, ne permet pas d'avoir du travail ou de diplômé, il est sûr qu'on ne la maintient pas. Mm-hmm. Donc du coup, ces formations, il y a des formations qui sont très spécialisées, qui occupent peut-être des créneaux relativement étroits, mais où les étudiants trouvent toujours leur travail. Donc la spécialisation, on est obligé un peu par la force des choses. Mais la spécialisation, elle se fait plus en fin de, disons, de parcours qu'en début de parcours. Quand je parle de la mention de master, je prends en physique ou je prends en info, il y a une partie qui est commune à tous les étudiants. Puis après, les étudiants se spécialisent suivant 4 ou 5 spécialités.
Mmh. Alors là, on a parlé des spécialités. Est-ce qu'il y a, depuis la rentrée, des formations nouvelles que l'Université de Lille a proposées aux étudiants de la région? Et est-ce qu'il y a peut-être d'autres formations dans les cartons dont vous voudriez éventuellement nous parler, M. Maouche?
Alors, vous savez que sur toutes les universités, ils sont partagés en 4 groupes. C'est ce qu'on appelle les vagues, la vague A, la vague B, la vague D. Et il y a les contrats qui durent 4 ans. Nous, toutes les formations, les nouvelles formations, globalement, se mettront en place en septembre 2010. Ça ne veut pas dire qu'elles seront toutes nouvelles. Mais il y en a qui ont été un peu remodelées, modifiées. Il y en a qui vont rester telles. Il y aura des nouvelles. Cependant, dans l'année, il y a ce qu'on appelle les licences professionnelles. Les licences professionnelles sont hors contrat. Ça veut dire que chaque année, on peut demander l'ouverture d'une formation. Et cette année, l'année dernière, cette année, on ouvre quelques formations de licences professionnelles, mais c'est plutôt compte-gouttes. C'est une, deux, peut-être trois, mais pas plus. Mais il ne peut pas donc y avoir de nouvelles formations. Je parle des formations diplômantes, diplômes d'État, qui peuvent s'ouvrir n'importe quand. C'est tous les 4 ans pour l'ensemble des formations licence, master, doctorat, et exceptionnellement les licences professionnelles, elles peuvent s'ouvrir tous les ans.
Alors, l'Université de Lille a sa spécificité, c'est bien sûr une université sciences et technologies. Quelles sont les limites du possible en termes de formation par rapport au contenu? Là, on a sciences, technologies, mais on est parfois à la limite de ces champs, non?
On est à la limite, l'île 1, c'est sciences au sens général, ça veut dire qu'il y a des sciences sociales, il y a des sciences économiques, il y a des sciences qu'on qualifie généralement de dures. Sciences et technologies, ça comprend tout ce qui est effectivement, dans le domaine sciences et technologies, pardon, c'est aussi la biologie, les sciences de la Terre, et après on a économie et gestion, et on a aussi des sciences humaines et sociales. Mmh. Alors, il arrive, je peux citer un master qui s'appelle Kalimapa, qui est un master où on parle plutôt de la qualité des produits alimentaires, où c'est presque une double compétence dans la mesure où les étudiants, pour trouver effectivement du travail, on leur enseigne du marketing ou de gestion. Donc ça arrive effectivement que ça soit un peu entre deux domaines. Après, dans le sciences et technologies, donc dans le même domaine, il arrive que certaines spécialités se chevauchent un peu, auquel cas les cours ont lieu effectivement donc en commun, mais les spécialités sont différentes. Ça veut dire que les compétences du diplômé sont légèrement différentes.
D'accord. Alors, on a au niveau de l'ILIN l'université, on a aussi les écoles. Bon, on peut prendre Polytech, l'IAE et peut-être d'autres. Comment ça s'organise ? Il y a un schéma global ou bien, on va dire, il y a des... Comment ça s'articule ?
Le statut de l'IAE est légèrement différent de celui de Polytech. L'IAE a un statut particulier par rapport à une composante physique ou sciences économiques et sociales. Ça, c'est plutôt par la loi. Mais les formations de l'IAE, aussi bien les formations de physique ou de sciences économiques, la faculté de sciences économiques, sont portées effectivement par l'université avec les collègues des composantes et dans leurs propres spécialités. Les écoles d'ingénieurs qui sont Lille 1, c'est Télécom Lille 1 et effectivement Polytech, ce sont des étudiants qui s'inscrivent à Lille 1 mais qui passent un diplôme d'ingénieur. Nous, on est... Toutes nos formations ont été évaluées cette année par l'AERES, donc l'agence donc, pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, tandis que les diplômes d'ingénieurs sont évalués par la CTI, la conférence du titre d'ingénieur. Donc le titre est délivré, c'est le ministère qui habilite, mais c'est sur évaluation de la CTI. Chez nous, c'est le reste des formations qu'on appelle LMD, c'est le ministère qui habilite, sur évaluation effectivement de l'AERS et du propre ministère. Donc il y a bien une différence, mais la gestion est globale, mais les formations sont avec des finalités effectivement différentes, et on a des spécialités différentes. Il y a le titre d'ingénieur et il y a le titre de master.
Alors, des IAE, il y en a plusieurs en France. Est-ce que l'ILIN a son IAE ? Comment ça fonctionne ?
L'IAE, donc, qui se trouve effectivement à Lille, plus exactement dans le Vieux-Lille, son directeur est actuellement le président de l'association des IAE de France. C'est l'un des plus grands qui se trouve à Lille. Les formations fonctionnent donc très bien. C'est plutôt donc dans le domaine de la gestion. Les sciences économiques étant plutôt en sciences économiques et sociales, c'est plutôt du management. Il a une place de toutes les composantes sur l'île 1. On fonctionne, à part le fait peut-être que c'est un peu éloigné du campus, ça fonctionne très bien.
Mmh. Alors, on a beaucoup parlé de formation, ces formations pour les étudiants classiques, mais il y a aussi beaucoup de formations continues à l'île 1. Est-ce que ça rentre dans le cadre de vos compétences, de votre réflexion ?
Tout à fait, je suis vice-président, de la formation tout au long de la vie. Ce qui veut dire que depuis 2007, il n'y a plus de vice-président chargé de la formation continue. Il y a quand même une directrice du Sud-Est. Et le Sud-Est est chargé, disons, de gérer toute la formation continue donc, de l'île 1. La formation continue de l'île 1, elle se fait dans toutes les composantes, mais il y a quelques composantes qui sont dérogatoires, ça veut dire qu'ils peuvent gérer elles-mêmes leur formation continue. Il s'agit de l'IAE, il s'agit de l'UIT, il s'agit du QEP. Mais je suis effectivement, en tant que vice-président, responsable de toutes les formations. Il faut dire que dans la formation continue, il y a deux choses. Il y a des étudiants qui suivent des formations diplômantes et des étudiants qui suivent plutôt des certifications, des formations certifiantes. Dans les diplômes, il y a des groupes de formation continue qui suivent un diplôme. À ce moment-là, c'est un groupe particulier. Mais le plus souvent, les étudiants sont avec les étudiants de la formation initiale. Ils sont plus donc ils sont traités globalement. Cependant, leurs dossiers, leurs inscriptions, leur accompagnement, je dirais leur bilan des compétences, etc., toutes ces choses se font au Sud-Est, où il y a effectivement des personnes dans l'ingénierie pédagogique qui permettent de les accompagner.
Alors, on ne s'en rend pas forcément bien compte, mais c'est une partie relativement importante du travail d'une université, de la formation continue.
On a à peu près 12 000 stagiaires par an pour 18 000 inscriptions en formation initiale. Mmh. Et le budget de la formation continue de l'île 1 doit être autour de 11 à 12 millions.
D'accord.
Ce qui est, c'est, faut dire que l'île 1, ça date pas uniquement de cette année ou de deux ans, ça date de plusieurs années, et l'une, pour ne pas dire la première université, de la formation continue.
Alors, est-ce que cette formation continue a vocation à répondre aux mutations profondes de la société ? Est-ce que vous ressentez une mission particulière ?
Tout à fait, c'est que dans le sens de la formation tout au long de la vie, ça veut dire qu'un étudiant qui a son bac pour entrer à l'université vient suivre un premier parcours. Il rentre dans la vie active, pour des raisons X, on lui permet effectivement donc de revenir pour soit remettre à jour ses compétences, soit pour progresser, avoir un autre diplôme, ou tout simplement parce que, je dirais, l'emploi dans son secteur d'activité est moindre et on lui permet effectivement de se réorienter. Mmh. Ce sont des publics en reconversion. On prépare actuellement, on a une formation à destination des personnes qui ne trouvent pas du travail facilement dans leur secteur d'activité pour qu'elles préparent des concours pour être professeur des écoles, par exemple. Mmh. Donc on a une certaine responsabilité, pas uniquement envers les personnes qui sont en recherche d'emploi, mais aussi envers les personnes qui effectivement travaillent actuellement. On peut les accompagner.
Est-ce que vous ressentez actuellement un décalage, une difficulté à pouvoir correspondre aux évolutions sociétales? Est-ce que l'homme arrive à répondre à cet univers qui est en profonde mutation? Est-ce que c'est un vrai problème pour lui et pour vous?
Tout à fait, parce qu'on a en réalité, nous n'avons pas toutes les possibilités d'agir. Ça veut dire que ça ne dépend pas que de nous. Les problèmes économiques, les problèmes effectivement de société interviennent sur nous sans qu'on puisse les contrer ou faire quelque chose. Tout ce que l'on peut faire, c'est des formations. D'aller vers vraiment une formation tout au long de la vie ou de permettre même à quelqu'un qui travaille de venir une journée faire une unité d'enseignement qu'il pourra capitaliser pour après faire valoir un diplôme. Mais c'est aussi de notre, disons, devoir, pas uniquement à l'université, tout ce qui est enseignement supérieur, de pouvoir orienter ces enseignements pour répondre à cette évolution. Que ce soit dans le domaine uniquement, je dirais, social au sens d'association, on a quand même des sciences sociales, mais aussi dans le domaine technologique. Il s'avère que c'est plus au niveau du domaine technologique que les évolutions sont un peu plus rapides ces dernières années.
Donc pour conclure cette émission, si vous aviez un vœu à formuler pour améliorer les choses, sinon de la société, du moins des gens que vous formez?
Je pense que le vœu qu'on peut former, c'est qu'on ait pas mal, beaucoup d'étudiants et que les étudiants viennent effectivement pour des formations avec des projets professionnels, sinon on peut aussi les aider. Le second vœu qui n'est pas des moindres, c'est d'avoir les moyens de pouvoir répondre à la demande de ces étudiants-là.
Monsieur Salamaou, je vous remercie.
Merci beaucoup. Bonne soirée. Thank you.